Décryptualité, semaine 19. Salut Manu.
Salut Luc. Comment tu vas cette semaine?
Eh bien écoute, je suis encore un peu malade. On n'a pas fait de podcast la semaine dernière à cause de ça.
Quoi, t'as le Covid?
Même pas. Bon, je suis en train d'en sortir donc c'est pas mal, mais ça fait long. Donc qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière?
Eh bien, comme d'habitude, des articles, mais comme il y a beaucoup de redites, je te propose qu'on va juste faire le sommaire habituel. Donc 4 articles cette semaine.
ZDNet France, des logiciels libres pas libres, un catalogue de la DINUM taxé d'open source washing, un article de Thierry Noisette.
Alors tout ça c'est dans le cadre de référentiels de logiciels, c'est-à-dire qu'il y a des administrations qui disent voilà, il y a des logiciels qu'on vous recommande d'utiliser, qu'on va vous aider à utiliser, et malheureusement dans le catalogue qui a été mis en avant par la DINUM, il y a des logiciels qui n'ont pas l'air d'être tout à fait libres dans tous les cas. Donc il y a un côté washing, c'est-à-dire on lave plus blanc que blanc, on vous fait croire que... Et c'est pas tout à fait du logiciel libre. Donc, faut voir à quel point c'est énervant, mais en tout cas, ça a un petit peu énervé l'April.
Ouais, souvent, on dit open washing hein, dans les expressions toutes faites. L'Écho, quel plan de relance pour l'enseignement à l'ère post-Covid? Un article, une tribune, je suppose, de Soufiane Amzur.
Une tribune, tout à fait, donc qui reprend effectivement l'éducation, l'informatique, puisqu'on a fait pas mal de dématérialisation ces derniers mois. Et puis, bah, le logiciel libre, qu'est-ce qu'il peut faire là-dedans? Donc, c'est plutôt intéressant, allez jeter un œil.
Arrêt sur image, la France, un GAFAM comme les autres pour Darmanin, un article de Thibaut Prévost.
Alors, c'est un petit peu énervant parce que les GAFAM, on aime bien les détester. Donc, voir qu'un ministre de gouvernement se réfère à ce genre d'éléments, c'est un peu embêtant. Ça me fait penser à ces époques où on disait, ben oui, mais attendez, si la Chine arrive à mettre un système de censure au point, ben nous aussi, on peut le faire. Donc là, c'est un petit peu la revendication. Si les GAFAM arrivent à utiliser des logiciels, des algorithmes, pour détecter et suivre des personnes, bah nous aussi on peut le faire. Donc se référer aux GAFAM et à leur capacité dans ce sens-là, c'est un petit peu énervant.
Oui, oui, c'est un truc qui revient à intervalles réguliers. Bon, on rappelle hein, que Facebook a fermé la page de la ville de Beach récemment.
Oui.
ouais, bah parce qu'en anglais, ça ressemble un peu à une insulte. Donc c'est dire à quel point leurs algorithmes sont super calés et que voilà, les IA, ça va résoudre tous nos problèmes.
Mais ce sera mieux parce qu'avec Darmanin et le gouvernement, t'inquiète pas, le seul risque c'est que t'ailles en prison quelques jours. Voilà, ça va, c'est
voilà,
un bug.
Bon, ça forme la jeunesse. Le journal de Montréal, Snowden sonne l'alarme sur la collecte de données, un article de Nora T. Lamontagne.
Alors oui, il y a beaucoup, beaucoup de collectes de données. Snowden en avait parlé il y a déjà quelques années, mais il continue et il explique qu'il y a beaucoup de données personnelles qui partent un peu partout sur Internet. Donc c'est embêtant. Parce que ce sont des choses qu'on ne contrôle plus, qui ne sont pas que gérées par les États, même si ce n'est pas toujours pratique, et ça dépend des États au cas par cas, mais par des entreprises qui n'ont pas toujours notre bien à cœur. Donc, ça peut être embêtant.
Alors effectivement, entreprises, on a finalement peu de droits dessus. Les États peuvent avoir de mauvaises intentions aussi, mais au moins, on a des institutions politiques qui sont censées nous permettre de peser sur les décisions.
Alors... T'as pas l'air de mal sonner, en fait. Le son est plutôt bon, je trouve, malgré le fait que tu sois malade. Tu te débrouilles bien? Tu fais quoi?
Bah écoute, j'ai quasi plus mal à la gorge, donc ça doit être pour ça. Tu dis ça parce que le sujet de la semaine, en fait, nous touche d'assez près. C'est la revente d'Audacity.
Alors, Audacity, avec un Y à la fin, et comme c'est une ça. Ville de l'audace. Hein.
Je sais pas.
Ou une ville de l'audio, on pourrait
et
aussi
ça vient plutôt
imaginer.
De l'audio, effectivement. C'est le logiciel que j'utilise pour faire le montage après notre enregistrement. Donc c'est là que je dois confesser, un truc essentiel, c'est qu'on triche comme des salauds quand même.
Oui, tu enlèves les blancs, tu enlèves les raclements de gorge chaque fois qu'on éructe.
Les répétitions, les E à rallonge, des fois quand on dit des conneries, bon, il y en a qui passent hein, quand même.
Jamais, les jurons.
Voilà, à chaque
les
fois
jurons,
je suis pas d'accord
les
avec
insultes.
Toi, hein, j'enlève ce que tu dis, par exemple.
Ah oui, mais je te fais une totale confiance, hein, tu vois. Mais effectivement, donc avec ce logiciel qui est un logiciel très sérieux, très solide... Tu peux reprendre la ligne du son et découper au cas par cas ou rallonger, rajouter, modifier, changer l'amplitude. Il y a des capacités qui sont extrêmes.
Alors, c'est un logiciel de manipulation de son et qui est plutôt du côté des logiciels relativement simples. Dans le libre, il y a un autre truc qui s'appelle Ardour, voilà, qui est un peu plus costaud, un peu plus orienté musique, et où on peut brancher des synthés, des machins. Audacity, à ce côté, c'est ce positionnement un peu plus simple.
Oui, alors là, je t'accuse de dire ça parce que tu le connais. Honnêtement, moi, j'ai déjà mis les mains dedans. Simple n'est pas du tout l'adjectif que je lui associerais, mais clairement pas.
Oui, bah je te dirais, il faut regarder Ardour et voilà. Non, c'est pas très compliqué.
C'est pas parce qu'il y a pire qu'il faut encourager. Non, Audacity n'est pas un logiciel que moi, je qualifierais de simple, loin de là. Il n'est pas pour le commun des mortels. C'est un logiciel qui me ferait même penser à des gens qui sont en studio et qui font ça... de manière quasiment professionnelle. Parce que c'est un logiciel qui a une apparence qui n'est pas hyper jolie, hyper sympa, c'est pas facile d'accroche. Et t'as des fonctions qui sont à découvrir assez difficiles.
Bah après, pour moi, je trouve ça relativement intuitif. Il y a quelques trucs un petit peu cachés. Après, ce que je fais, moi, c'est simple. Hein, nettoyer un fichier son pour la radio, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Après, c'est un logiciel, par exemple, qui permet pas vraiment de travailler en temps réel, ce qui est un truc important pour les musiciens. C'est-à-dire que s'ils veulent faire passer tous leurs instruments par un ordinateur et enregistrer en direct, et après, éventuellement, rejouer la musique par l'ordinateur pour rejouer par-dessus avec un nouvel instrument. Et on a besoin de temps réel qui font que la lecture et l'enregistrement soient suffisamment rapides pour que ce soit instantané. Audacity, par exemple, ne sait pas faire ça. Mais enfin bref, on en parle parce que ce logiciel qu'on utilise toutes les semaines est revendu. Donc, c'est un logiciel libre, forcément.
Donc, comment tu fais pour revendre un logiciel libre? Ça me paraît impossible.
Ben, j'allais te poser la question.
Ah mince, j'étais le premier. Allez, essaye une réponse. Va.
Donc, en fait, évidemment, le code est libre. Donc, n'importe qui peut le prendre et le modifier, le redistribuer et se l'approprier. En fait, ce qui est revendu, c'est la marque. Très souvent, dans les projets libres, la marque est déposée. Donc, il y a un droit de propriété intellectuelle sur la marque. Il y a quelques contre-exemples, hein, quelques logiciels où la marque est... Voilà, tout le monde le connaît sous ce nom-là, mais en fait, ça appartient à personne et tout le monde a le droit d'utiliser cette marque-là. Mais très souvent, et c'est le cas d'Audacity, quelqu'un a déposé cette marque-là. Et donc, du coup, il revend la marque. Et donc là, c'est un éditeur qui s'appelle Muse Group, rien à voir avec le groupe de musique, hein, qui édite voilà, quelques logiciels, dont un est déjà en open source.
D'accord, donc ils ont récupéré l'image du logiciel, c'est-à-dire le logo, le nom. Et ça me fait penser un petit peu à ce que faisait Firefox à une époque. Firefox, ils utilisaient, donc c'est du logiciel libre, ils utilisaient leur logo et leur marque pour dire, attention, si vous modifiez, si vous distribuez notre logiciel sous une forme qui ne nous plaît pas, en rajoutant des patchs, par exemple, non validés, vous n'aurez pas le droit d'utiliser le nom avec votre distribution.
Firefox avait fait ça pour un vendeur de PC qui voulait vendre la préinstallation de Firefox. Et en disant, bah voilà, nous on vous le facture à temps. La fondation Mozilla avait dit, bah si vous faites payer Firefox, vous n'avez pas le droit d'utiliser la marque Firefox. Et donc du coup, l'éditeur qui a racheté ce logiciel, il a racheté cette marque, et il va éditer un logiciel, il va le faire évoluer, je suppose, et il va, a priori, éditer le logiciel et, de ce qu'il a annoncé, conserver la licence, et donc continuer à faire du libre à partir de ce qu'il a acheté.
C'est hébergé sur GitHub, donc une plateforme très connue où il y a plein de logiciels libres qui se retrouvent. Et j'ai vu toute une vidéo avec certains participants du projet qui n'ont pas l'air d'être dérangés par l'idée de, justement de travailler sous un autre contrôle parce qu'il y aura quand même des dirigeants qui vont essayer d'orienter le projet. Et si j'ai bien compris, il va y avoir des designers qui vont essayer de travailler un petit peu sur l'IHM pour voir pourquoi il y a 6 ou 7 loops à certains endroits, pourquoi il y a des boutons qui ont l'air d'être un peu en duplicata et faciliter l'usage du logiciel. Ce que moi, de mon point de vue d'amateur, de grand amateur, ne saurait que apprécier.
Oui, alors c'est une des critiques qui est faite au logiciel, hein, c'est-à-dire que son interface est un peu vieillotte et pas nécessairement très intuitive. Bon, après, moi j'ai l'habitude, donc ça me dérange pas. Ça peut être bien, effectivement, si cet éditeur apporte de nouveaux moyens au logiciel, mais la question c'est comment il va rentabiliser ses investissements. C'est-à-dire qu'on peut supposer qu'Audacity, donc c'est un logiciel connu, donc cette marque, elle a de la valeur parce que les gens qui tripotent les sons connaissent le logiciel. C'était des développeurs sans doute bénévoles ou quasi-bénévoles avec bon, quelques dons de temps en temps. Donc on comprend complètement qu'ils soient contents de se dire qu'ils vont avoir un modèle qui va leur permettre peut-être d'être payés, de gagner des sous. À un moment où travailler gratuitement, on se lasse. C'est très naturel. Mais la question, c'est comment l'éditeur va gagner et engranger plus de sous que les gens qui géraient le projet avant ne le faisaient. Qu'est-ce qu'il va faire de nouveau qui va lui faire faire du bénéfice?
Alors nous, on ne peut que imaginer, mais on peut imaginer des pistes qui seront des pistes qui nous plaisent ou au contraire, moi je vois bien, il y a aussi des choses qui peuvent être un petit peu embêtantes. Une piste qui peut être énervante, c'est ce qui s'appelle l'open core, le cœur libre, mais de faire un pourtour propriétaire. Et ça, ça peut arriver. Et Muse Group faisait aussi des versions dites professionnelles d'un logiciel libre qu'ils éditent. Et donc, on pourrait imaginer ce genre de développement qui nous embêterait.
Oui. Alors, effectivement, c'est une des hypothèses. Hein. Évidemment, l'éditeur n'a rien dit, mais c'est, vu qu'ils le font sur un autre logiciel, une des hypothèses les plus probables. Et là, la question, c'est combien de temps ils font ça? Parce que ce qui est intéressant pour l'éditeur quand il fait ça, c'est de se dire que la version gratuite permet à tout un chacun de le tester, de prendre des habitudes, et s'ils ont des utilisateurs qui se mettent à faire des trucs vraiment pro, sérieux, etc., ça peut valoir le coup pour eux d'accéder aux fonctions supplémentaires et d'investir de l'argent dedans. Et l'avantage, c'est qu'ils sont déjà formés, ils ont déjà leurs habitudes avec ce logiciel. Et du coup, c'est intéressant pour l'éditeur d'occuper le terrain, quoi.
Alors, il y a d'autres pistes, hein, et on peut espérer qu'ils vont aller plus de ce côté-là. Ils font des formations et ils travaillent sur la transmission des savoirs. Donc, on pourrait imaginer qu'ils vont aider des nouveaux utilisateurs à s'adapter au logiciel. Ça peut jamais faire de mal de voir comment fonctionne Audacity. Et ils pourraient aussi travailler à l'adapter à des usages. Peut-être qu'il y a des studios, Disney, qui faudrait travailler des sons et qui se diraient, tiens, il y a telle fonctionnalité que je n'ai pas dans Audacity ou que je voudrais améliorer. Donc, ils pourraient demander à quelqu'un qui supposément connaît bien le logiciel, de le faire évoluer. Et on a pu voir ça avec un autre outil que tu aimes bien, c'est Blender. Blender, ils ont été plutôt acceptés par les grands studios parce que c'est un outil libre qu'ils peuvent faire évoluer et dans lequel, quand ils mettent quelque chose, ils savent qu'ils ne risquent pas trop de se faire avoir derrière parce que le code est réutilisable s'il le faut. Si jamais il y a quelqu'un qui est mécontent du système, on peut toujours partir avec une copie du logiciel, c'est un logiciel libre, on a le droit de le faire, on peut faire un fork. Donc on pourrait imaginer que les gens d'Audacity vont aller démarcher comme ça des entreprises pour des développements à façon.
Il faut voir, après je pense que dans l'édition de fichiers son, il y a pléthore de choix en termes d'éditeurs, en propriétaire notamment. Le choix de cet éditeur, c'est effectivement de racheter la notoriété en question, ce qui démontre que c'est un point important. Et ça m'a fait penser récemment, j'ai un ami qui était encore sur OpenOffice parce qu'il n'avait jamais entendu parler de LibreOffice. Donc on rappelle, LibreOffice c'était un fork d'OpenOffice. La communauté autour d'OpenOffice n'était pas contente du repreneur du produit qui était en train de tout péter et de casser la démarche libre. Et donc ils ont fait ce fork.
Qui s'appelle Oracle, je rappelle.
Voilà, ils ont fait ce fork qui marche plutôt bien, qui continue à vivre. Mais aujourd'hui encore, des années après, il y a des gens qui n'ont toujours pas entendu parler de LibreOffice. Donc cette question du nom, elle est quand même essentielle.
Alors, et ce nom, c'est quelque chose qui se fait aussi dans le temps. Rappelons qu'Audacity, c'est un logiciel qui est ancien. Il a été débarré en 99. C'était l'université de Carnegie qui était dans le contexte. Ça me fait penser à AVLC, qui était fait dans un contexte d'éducation. Donc, plutôt pas mal. Donc, il y a un historique. Et quand il y a un historique, ça veut dire qu'il y a des gens qui peut-être le connaissent ou en ont entendu parler il y a 10 ans et qui ne le retesteront que plus tard. Et qui seront peut-être contents de voir que oui, le logiciel est toujours là. Donc cette réputation, elle peut avoir une valeur importante.
Voilà, et puis après, ça fait un peu écho à ce qu'on avait dit il y a 15 jours, où on se posait la question du poids de l'économie, et notamment des GAFAM qui peuvent forquer un logiciel libre, qui ont les moyens de redémarrer un projet si on les embête de trop. Bon là, on n'est effectivement pas sur cette gamme-là, l'éditeur est loin d'être un éditeur énorme qui est en position massive sur le marché et ou qui brasse des milliards. Mais il y a quand même cette idée aussi, d'une part qu'on a des développeurs qui, souvent dans les projets libres de ce type-là, ne sont pas payés, ou alors il y a un peu d'argent qui rentre, mais on a des gens qui bossent en bénévole comme ça sur le long terme. Ça réévoque un peu cette question de l'économie et de dire qu'il y a un moment, les gens ils en ont peut-être marre et qu'ils ont peut-être envie d'être payés pour ce qu'ils font, même si c'est pas faire fortune. Et que également, quand on arrive avec un gros chèque, ça peut être motivant. Ça m'a fait penser aux créateurs de BitTorrent, donc quel protocole de téléchargement sur Internet.
C'était pour faire du peer-to-peer.
Pour faire du peer-to-peer. Bram Cohen, il avait revendu le projet. Je crois qu'il continuait à faire du business dessus.
Le nom
mais il y a un moment,
projet...
c'était il y a quelques années, je me souviens de ça. Quand on lui dit « Mais pourquoi t'as vendu ?», il a dit « C'était trop alléchant ». Et effectivement, je pense qu'il peut assurer que si on lui dit « Tiens, prends 1 million », il va pas mettre ses convictions de côté en disant ok, mais bon, ça me rend quand même la vie beaucoup plus facile.
Alors moi, je suis d'accord, mais pour 1 milliard. Je suis d'accord pour quoi, mais je suis d'accord pour 1 milliard.
Voilà.
Ok, et ensuite, je me débrouillerai avec ma conscience, s'il faut.
Très bien, écoute, moi, je réunis la somme dans le courant de la semaine et on voit ce qu'on peut faire pour la semaine prochaine.
Ah alors là, je te redonnerai un pourcentage, t'inquiète pas. Bon, mais moi, je dirais, sur ce sujet-là, il faut faire attention, parce que trop de pouvoir corrompt. Donc, effectivement, vaut mieux le diffuser, s'assurer qu'il y a une bonne gouvernance. Donc là, Audacity, on va croiser les doigts et espérer que ce soit bien gouverné. Et puis, dans le pire des cas, c'est du logiciel libre, on pourra le forquer, si c'est nécessaire.
Très bien, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, prends soin de toi.
Salut.
Salut.